Delroy, nous allons faire un film fantastique.
Depuis Garbo, les actrices ont gardé ce mystère, ont gardé quelque chose de vraiment à elles, une personnalité.
Je crois que c'est pour ça que des milliers de gens aiment le cinéma, pour s'oublier eux-mêmes dans l'émotion due à la contemplation d'un groupe.
Zone B, un crime dans la tête de John Frankenheimer. Alors, issu de la télévision, John Frankenheimer, catalogué cinéaste d'action avec des films comme French Connection 2 ou Ronin, ne possède pas le statut de ses petits camarades révélés à la même période comme Sidney Lumet, Robert Mulligan ou Arthur Penn. Un crime dans la tête permet surtout de réévaluer un cinéaste qui, s'il ne peut pas être considéré vraiment comme un auteur au sens européen, a développé avec le temps des obsessions récurrentes. La plupart de ses films tournés au cours des années 60 s'articulent autour de la même thématique, le libre arbitre de l'individu au sein d'un système verrouillé qui empêche l'épanouissement de chacun. Un crime dans la tête peut même être considéré comme le reflet d'une époque où l'Amérique va perdre son innocence. Alors on peut même penser qu'il anticipe l'assassinat de Kennedy, période où le pays va sombrer dans une crise morale profonde que le 7e art ne cessera de décortiquer par la suite. Cette remarquable adaptation du roman de Richard Condon déploie un récit halluciné flirtant avec l'anticipation. Revenu de la guerre de Corée, le capitaine Ben Marco fait un rêve récurrent concernant son bataillon et son supérieur, le sergent Raymond Chaud. Il se retrouve dans un salon de thé en compagnie de ses camarades. Une dame d'un certain âge leur explique les bienfaits de certaines fleurs. L'ambiance étrange vire à l'onirisme, rien ne paraît crédible. Par un habile montage, une autre réalité plus anxiogène se dévoile. Le salon de thé ne serait qu'une illusion liée à l'hypnose et à diverses drogues. On découvre un personnage inquiétant se livrant à un lavage de cerveau sur les jeunes militaires dans le but de les transformer en machines à tuer. Alors quelle est la réelle nature de ce rêve? D'autant que Ben ne comprend pas pourquoi il répète que Shaw est un homme exemplaire alors qu'au fond de lui, il sait très bien que tout le monde le détestait. Il va apprendre qu'un de ses camarades de front est victime aussi des mêmes cauchemars insupportables. Alors une lecture prosaïque pourrait discréditer le film qui ne serait qu'un énième film de propagande anticommuniste réalisé pendant la guerre froide. Or, le récit s'avère plus retors, renvoyant dos à dos les deux blocs. La place de l'individu, broyé par l'appareil politique, est au cœur de cette machination implacable, réflexion métaphorique sur l'aliénation et la perte de conscience. Pour étayer ce discours sur l'instrumentalisation de citoyens à des fins servant l'intérêt d'un pays, Frankenheimer emploie les grands moyens, puis dans la technique pour livrer un film démesuré à la mise en scène baroque et excessive, expérimentant sans cesse au sein d'une pure commande de studio. Pour signifier le climat paranoïaque qui contamine le film dès ses premières images, le cinéaste a recours à une forme proche de l'expressionnisme, à rendre jaloux Orson Welles. Cette stylisation outrancière passe par d'incessants décadrages, des jeux d'ombre et de lumière, de longues focales, des grands angles, des mouvements de caméra complexes. Cette prolifération d'effets visuels n'a rien de gratuit. Elle est au contraire en accord avec le sujet, symbolisant la psyché des personnages pris dans les arcanes d'une intrigue qui les dépasse. Ce thriller immersif, articulé donc autour d'une conspiration visant l'assassinat d'une personnalité politique de premier ordre, dresse un constat pessimiste d'une société n'hésitant pas à briser les individus pour servir des intérêts économiques. Il émane du film une tristesse et un désespoir d'une grande lucidité. Nous ne sommes que des pions au service des puissants. Cet aspect est pris au pied de la lettre avec cette petite musique derrière la tête qui incite Raymond Chaud à obéir dès qu'il entend certains mots. Le film fonctionne alors comme une allégorie sur la capacité de l'humain à accepter ou refuser d'être manipulé. Cette mécanique du complot, implacablement bien construite, qui embrase la grande histoire, ne serait rien sans les interactions qui affectent les personnages. Si un crime dans la tête impressionne par son histoire, à la limite du vraisemblable, il touche aussi par les relations tragiques qu'entretiennent les protagonistes. John Frankenheimer dresse d'ailleurs un portrait de mère absolument terrifiant, sous les traits d'une Angela Lansbury qui crève l'écran, à l'influence tentaculaire sur son fils Raymond Chaud. L'emprise psychologique de cette figure monstrueuse explique en partie le mal-être de Chaud qui devient l'anti-héros d'une tragédie humaine. Loin de se réduire donc à un exercice de style brillamment exécuté, ponctué d'étourdissants morceaux de bravoure, un crime dans la tête dresse le portrait glaçant d'une humanité manipulée par une double réalité conditionnant le libre arbitre de chacun. Alors le film sort en Blu-ray dans une copie absolument magnifique chez Rimini.
Kilderoy, nous allons faire un film fantastique.
Garbo, les actrices ont gardé ce mystère, ont gardé quelque chose de vraiment à elles, une personnalité.
Je crois que c'est pour ça que des milliers de gens aiment le cinéma, pour s'oublier eux-mêmes dans l'émotion due à la contemplation d'un groupe.